quack.
Bonjour, pour cette émission COP et Radio, une émission de Radio Larzac qui explore les questions d'éducation populaire. En ce mois de mai, nous avons tout naturellement choisi le thème du syndicalisme. Donc cette émission prendra la forme d'une discussion avec Nicolas Bestard. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Première question, Nicolas, quel est ton lien avec l'éducation populaire et ton ou tes liens avec le syndicalisme ?
Alors mon lien avec l'éducation populaire... Il est assez ancien parce que j'ai commencé lorsque j'étais lycéen, donc il y a plus de 30 ans, dans des associations au départ qui étaient présentes dans mon lycée. Après, j'en ai créé moi-même. Et assez vite, il y a eu des mobilisations, c'était en 1994, des mobilisations contre la réforme de la loi Fallou à l'époque où Bayrou était ministre de l'Éducation. Et ils voulaient attribuer plus de moyens à l'école privée. Et il y a eu une grosse mobilisation, c'est le 16 janvier, je me rappelle, avec 1 million de personnes dans les rues à Paris. Et suite à ça, il y a eu une montée, un peu une remontée de la conscience de la jeunesse. Hein, c'était quelques années après chez Dumur, c'était quand même le capitalisme triomphant. Donc il ne se passait pas grand-chose du point social. Et là... Il y a eu des mouvements, après il y a eu le CIP aussi, il y a eu tout un tas de choses en 94 qui ont abouti à une forme de congrès de relance d'un syndicat lycéen, la FIDEL, Fédération Indépendante Démocratique Lycéenne. Alors Indépendante Démocratique était très liée à la fois au syndicat étudiant UNFID et on va dire au PS, mais pas que, hein, moi j'avais rien à voir avec ça. Et en fait, voilà, j'étais à ce congrès un peu national de relance et on a décidé, dans ma ville, à Nancy, de lancer une section locale. Et donc, ça a été mon premier contact avec le syndicalisme lycéen. Ensuite, quand j'étais étudiant, j'étais à l'UNEF, l'UNEFSE, on disait à l'époque, Solidarité étudiante. Donc, c'était un syndicat étudiant. Plus proche historiquement on va dire du PCF hein, même si dans ma ville c'était pas le cas du tout et puis on portait nous la revendication de la réunification syndicale et donc on a fusionné un jour l'UNEFSE et l'UNEFID pour refaire l'UNEF même si elle n'a pas une grande suite par derrière voilà et puis après j'ai été syndiqué toute ma vie dans la CGT précaire j'ai été aussi au SNES à l'époque où j'étais dans l'éducation nationale. Voilà, j'ai été. Voilà, et puis maintenant je suis à Solidaire Asso. Mon rapport au syndicalisme et à l'éducation populaire, il est à la fois en ayant toujours été adhérent d'associations également antiracistes, internationalistes, de terrain, là où j'y vais, dans les quartiers populaires, et en même temps en étant militant politique et militant syndical. Et avec un peu l'idée. Que finalement, pour marcher, on aurait besoin non pas de deux jambes, mais de trois. Une jambe qui est l'associatif, c'est-à-dire intervenir là où on vit des discriminations, là où on vit des inégalités, là où il y a des stigmatisations, là où il y a des injustices, et pouvoir agir au niveau ultra-local, avec les gens concernés, là où on est. Une jambe qui est la jambe syndicale, qui consiste en fait à questionner... les rapports de domination des entreprises, mais à concrète, hein, au lieu du travail, mais aussi quand on est étudiant, lycéen ou autre, c'est se battre pour des revendications immédiates. Hein, les conditions de vie, les conditions de travail, il n'y a plus de PQ aux toilettes, ça peut être aussi basique que ça, mais enfin, c'est pénible quand ça arrive pendant une année entière dans un lycée. Enfin, des petites choses du quotidien jusqu'à se battre pour des droits hein, collectifs, tout en défendant les collègues ou les lycéens ou les étudiants au quotidien. Et puis la jambe politique, qui ne consiste pas simplement à se battre contre ou se battre pour des choses, on va dire, immédiates, qui vont un peu augmenter le niveau de conscience et de bien-être et qui vont permettre de gagner un peu plus d'appui, mais bien, quel projet social et politique nous voulons, en fait. Et comment on arrive à coordonner les trois. Donc, voilà, ça, c'est un peu mon parcours personnel. Et ça permet d'avoir des réflexions aussi qui sont relativement claires sur de quoi je parle, à quel niveau, avec qui, dans quel cadre.
Et du coup, quel lien existe-t-il entre l'éducation populaire et le syndicalisme, alors je sais pas, historiquement, théoriquement, factuellement, ou même donc personnellement, là on l'a vu un peu dans ton parcours, et aussi à travers ça, comment tu définirais ces deux mouvements, quoi, pour savoir de quoi on parle à peu près.
Alors effectivement, faudrait revenir à l'une des émissions précédentes, mais le syndicalisme fait partie à part entière du courant de l'éducation populaire. C'est l'une des branches, on va dire, de l'éducation populaire. Et j'aurais envie de dire au sens propre du terme, c'est-à-dire comment les personnes concernées, donc en l'occurrence des travailleurs, des travailleuses, se regroupent pour discuter avec celles et ceux qui ont les mêmes conditions de vie, les mêmes problématiques, les mêmes questionnements sur leur place, sur les notions d'oppression, de domination, d'aliénation, de domination capitaliste, pour en fait trouver des points d'appui, comprendre le monde et le transformer. Alors il y a un syndicalisme français qui a une histoire, effectivement, une histoire qui s'inclut elle-même dans les réflexions du mouvement ouvrier international. C'est pas isolé. Ça a pris des formes particulières. En Angleterre, il y avait les unions, trade unions, qui étaient historiquement très liés, on va dire, aux partis politiques du mouvement ouvrier, pour faire vite. C'est la même chose en Allemagne, où les syndicats étaient très liés aux partis politiques. Et en France, le mouvement syndical, il a été aussi forgé par les révolutions du 19e siècle, par la Commune de Paris, par la place qu'avaient les révolutionnaires. Et donc, c'était un mouvement majoritairement d'inspiration syndicaliste révolutionnaire. Et avec, par exemple, la création de la CGT en 1895, n'en déplaise à notre député qui pensait que ça n'existait toujours pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, la CGT a été créée lors d'un congrès en 1895 sur une ligne de transformation sociale. Par la suite, il y a eu tout un tas de débats, mais l'une des références fondatrices du syndicalisme français, c'est la charte d'Amiens. La charte d'Amiens de 1906, alors elle ne sera appelée charte d'Amiens qu'à partir de 1912, mais en tout cas, une charte lors du congrès de la CGT en 1906 à Amiens précise plusieurs choses. Un, elle reconnaît la lutte des classes comme étant centrale dans la perspective syndicale. Deux, elle se donne un double objectif. D'abord, c'est la défense des revendications immédiates et quotidiennes des travailleurs. C'est un peu ce que je dis, c'est-à-dire à un moment donné, quand on vit quelque part, quand on travaille quelque part, notre environnement immédiat, comment on est au travail, la pénibilité, le sens du travail, le rapport au patron, tout ça, ça génère de la souffrance, de l'exploitation, et il est légitime pour des syndicalistes de s'occuper du bien-être au quotidien des travailleurs et de les pousser à s'organiser eux-mêmes sur ces questions-là. Le deuxième objectif, il n'est pas que de faire du service, mais bel et bien de transformer l'ensemble de la société, et je cite, par l'expropriation du capital. Donc on est bien sur à la fois quelque chose d'immédiat, de concret, et quelque chose de totalement systémique, avec un peu l'idée qu'il faut également être totalement indépendant à la fois des partis politiques et de l'État. Il n'y a pas forcément une méfiance fondamentale vis-à-vis des partis. Mais il y a cette croyance, à l'époque, en tout cas, que le syndicalisme est révolutionnaire et que la capacité à exproprier la classe capitaliste et faire des cellules d'entreprise, finalement, une occasion de réorganiser la production, la répartition des richesses et la diffusion des produits ainsi manufacturés était finalement la cellule de base d'une réorganisation de la société. Tout ça, ça se doublait d'une revendication stratégique, puisque ce qui a été placé comme axe central lors de la charte d'Amiens, c'est la grève générale en fait. La grève générale comme moyen d'exproprier le patron, de penser la question de la réorganisation de la production, de l'appropriation socialisée des moyens et des outils de production pour relancer des productions et finalement repenser l'organisation du travail et les chaînes d'approvisionnement. Et ça, c'est quand même important parce qu'il faut comprendre qu'il y avait 839 délégués à ce 9e congrès de la CGT et que ce texte a été approuvé par 830 des 839 délégués. C'est-à-dire, c'était quelque chose d'absolument massif. Quelque chose d'absolument massif. C'est aussi lors de ce congrès-là que parmi leurs revendications immédiates, la question du baisse du temps de travail, sans perte de salaire et bien sûr, la question de l'augmentation des salaires et la question de l'émancipation intégrale de la classe travailleuse ont été mises à l'ordre du jour en fait. En tout cas, rappelées comme priorité. Et c'est assez bizarre parce que c'est un texte qui pour nous aujourd'hui est extrêmement loin de ce que l'on imagine d'une revendication des syndicats. En tout cas pour l'aspect transformation sociale. Et pourtant, aujourd'hui, il y a la CGT, Force ouvrière, l'UNSA, Sud Solidaire, et des associations lycéennes comme l'USL, MNL, etc., ou bien l'UNEF, qui se revendiquent de cette charte d'Amiens. Il y a d'autres syndicats comme la CFTC ou la CFDT qui ne se revendiquent pas, mais qui la reconnaissent comme étant effectivement centrale dans le paysage politique et dans les référentiels. Donc ça, c'est quelque chose qui a durablement marqué l'organisation des travailleurs, des travailleuses. C'était absolument normal, à l'époque, de concevoir la lutte pour l'émancipation comme étant une lutte anticapitaliste, révolutionnaire. Et il y avait donc ce syndicat unique, même si, dès la fin du XIXe siècle, il y a également un syndicalisme chrétien qui émerge. De la même manière qu'il y a un mouvement d'éducation populaire chrétien, il y a un syndicalisme chrétien qui regroupe 400 000 adhérents, sachant que la CGT de l'époque regroupait 700 000 adhérents. Mais 700 000 adhérents sur 7 millions de travailleurs, 7 millions de salariés, pardon. Donc c'est quand même 10%. C'est un chiffre qui laisserait songer aujourd'hui. Donc le lien, il est là. Le lien, il est dans cette intrication entre des travailleurs qui sont souvent engagés dans des partis, dans le syndicat, dans des associations, et qui finalement font un maillage, qui apprennent, qui se forment. À l'époque, il y a des formations, il y a des formations dans toutes les usines, sur le droit du travail, alors le droit du travail... pas au sens actuel, le droit du travail était extrêmement limité à l'époque. C'est pour ça qu'ils se battaient pour. Mais en tout cas, il y avait comme des appuis. Il y avait des acquis, il y avait tout un tas de choses qui étaient mises aussi en débat à l'échelle internationale. Quelles revendications ? Il y avait des courants mondiaux, il y avait des penseurs à l'époque à l'international. Et tout ça, ça faisait une sorte d'agitation culturelle, militante, permanente, avec des congrès, avec des journaux, avec des tracts, avec des livres, avec... Oui, les travailleurs lisaient. Ça paraît bizarre, on a toujours un peu l'image d'Épinal, mais c'était leur vie, c'était leur perspective, dans des journées de travail qui faisaient 12 heures, 15 heures.
Au-delà des moments de lutte et donc de grève, c'est vrai qu'on associe souvent les syndicats à la grève, tout ça on l'identifie bien, mais que font d'autres les syndicats ? Est-ce que les syndicalistes, tu en as parlé un peu, se forment, s'auto-forment, s'informent ? Par quoi passe l'émancipation sociale, pour faire référence à l'éducation populaire ? Et comment ça se passe aujourd'hui, par exemple, cette formation, cette information ?
Alors la question de la formation, elle a toujours été vraiment centrale. C'est-à-dire que, il y a mille définitions d'éducation populaire, mais l'une de ces définitions pourrait être une forme de co-formation permanente, de partage des savoirs, en fonction de qui sait quoi, parce que tout le monde sait des choses. Et l'idée, c'est de mutualiser nos approches, nos connaissances, d'en discuter, de débriefer ensemble, pour avoir une intelligence collective qui se développe depuis les apports individuels. Alors, c'est un peu ce processus-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1791, la loi Lachapelier avait interdit les coalitions, le droit de grève et tout un tas de choses à commencer. Et donc, avait interdit de fait les syndicats, même si ça n'existait pas. Donc, dès 1791, donc peu de temps après la révolution bourgeoise, déjà, la bourgeoisie et le patronat avaient interdit toute égalité réelle dans la répartition des richesses et l'organisation. Il n'empêche que toutes ces luttes du XIXe siècle ont abouti à ce qu'à un moment donné, il y ait des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent, surtout à partir de 1848 et la révolution de février. Là, il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement provisoire et qui va redonner la liberté d'association. Donc ça, c'est fondamental. Parce qu'à partir du moment où on a le droit de s'associer, ça recrée la possibilité de générer du collectif sans se faire massacrer, en fait, pour être simple. Donc, il y a le suffrage universel, en tout cas une partie du suffrage universel. Il y a l'idée qu'on a un droit au travail et que finalement diminuer le temps de travail est une perspective. Donc il va y avoir tout un tas d'associations qui vont se développer à partir de là. En 1864, le délit de coalition de grève est supprimé par la loi Olivier qui de fait met fin à la loi Le Chapelier. Les syndicats sont toujours interdits, certes, mais en créer un n'est plus un délit. Donc on est dans une espèce d'entre-deux qui fait que en 1868, la création va être tolérée de chambres syndicales. Et là, ces chambres syndicales, ce sont des organisations en tant que telles qui, dont l'une des fonctions est bel et bien la formation. C'est quoi les enjeux ? C'est quoi nos revendications ? Avec aussi apprendre à lire, à écrire. Enfin, ça peut être de la formation aussi simple que ça, lire des... fiches de paie, des choses comme ça, que des revendications et de la formation à la pensée, à l'organisation, donc des choses aussi bien théoriques que concrètes.
Donc ils se réunissent régulièrement pour tout ça.
Et en 1871, il va y avoir la Commune de Paris. La Commune de Paris qui est un accélérateur extraordinaire, avec également une défaite, écrasée par l'armée, et qui pose la question effectivement de quelle organisation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors Marx et tous les révolutionnaires de l'Internationale analysent ça, mais au niveau local aussi en fait. Tout le monde a besoin de comprendre, tout le monde a besoin de se dire, lors de la prochaine révolution, comment on fait? Comment on fait? Quelles leçons on tire de tout ça? Donc c'est apprendre nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Et en fait, à partir de 1872, il y a un développement extrêmement massif du mouvement ouvrier organisé et de ses structures de base, avec des dizaines de milliers d'associations locales qui émergent en réalité. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ça, c'est un foisonnement. L'apprentissage, il est à la fois par de la formation, mais la formation, elle se fait par l'action, puisque ce sont des grandes époques d'agitation révolutionnaire, de lutte pour les droits, face à un patronat qui est extrêmement violent, puissant, à une époque où il n'y a pas de droits. Et par exemple, en 1882, il y a une grande grève qui démarre à Roubaix et qui va concerner 325 entreprises et 40 000 grévistes. C'est absolument énorme et ça donne un tel élan à travers tout le pays de mobilisation, de regroupement, qu'en 1884, les syndicats sont enfin légalisés par la loi Waldeck-Rousseau. Donc voilà, c'est tout ce fourmillement, ce foisonnement qui contraignent les autorités finalement à devoir lâcher. Et puis 1884, c'est pas pour rien que c'est aussi une grève où il y a 10 000 mineurs à Anzin, hein, cette fameuse grève où Émile Zola s'est rendu pour observer ce qui se passe et qui lui a servi de support pour écrire Germinal. En 1887, il y a la création des bourses de travail. Et ça, je pense que c'est quand même un élément qui est central, parce que c'est ça qui va être le repère. Donc, à Paris, il y a une maison des syndicats qui émerge et qui va être un centre de formation continue des gens, des travailleurs. Et il y aura une fédération des bourses du travail qui va se créer en 1892 à l'échelle nationale.
Voilà. Aujourd'hui, comment ça s'organise tout ça? Est-ce qu'il y a aussi autant de formations, autant d'informations? Est-ce qu'il y a encore des journaux? Et un deuxième tiroir de ma question, c'est comment les décisions se prennent au sein des syndicats et comment les prises de parole se font? Est-ce que tout le monde s'exprime?
Les syndicats ont toujours eu des journaux. Comme je disais, hein, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé. Le journal faisait partie de la culture ouvrière en tant que telle. Donc tous les syndicats publiaient leur organe de presse. De même que tous les partis, même les micro-partis, avaient leur organe de presse. Donc la culture ouvrière était basée sur la lecture, l'échange à partir de la lecture et l'arpentage à partir plutôt de la moitié du XXe siècle. Mais y compris les militants qui ne savaient pas lire étaient inclus soit dans des processus d'apprentissage, soit dans des processus davantage basés sur l'oralité. Mais l'article de presse était quelque part fait par des journalistes professionnels, des militants syndicalistes, journalistes, mais aussi par les correspondants locaux, correspondants de grève, correspondants d'usine, correspondants... voilà. Donc oui, c'était très important. Et la formation, alors comment elle se passe aujourd'hui, c'est très différent, et j'imagine que ça change beaucoup selon les organisations. C'est compliqué pour moi d'aborder ça sans faire un petit retour sur l'évolution du mouvement syndical au XXe siècle, parce que tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'était une forme de syndicalisme unifié, en fait. C'est-à-dire également avec des pratiques unifiées. Il pouvait y avoir des désaccords théoriques, il pouvait y avoir des désaccords programmatiques entre anarchistes, révolutionnaires, réformistes, etc. Mais malgré tout, les débats étaient en interne. C'est vrai qu'avec l'explosion de nombreux syndicats, en fait, les syndicats vont aussi générer des pratiques qui diffèrent. Et une des particularités, à mon avis, du syndicalisme au XXe siècle, dont le XXIe siècle finalement n'est qu'une suite, c'est aussi la bureaucratisation. C'est-à-dire que des gens payés pour être syndicalistes, qui parfois n'ont pas travaillé depuis 30 ans, je veux dire, en dehors du fait d'être syndicaliste, ça génère ce qui s'appelle une bureaucratie, en fait, avec des professionnels, on va dire, de la négociation, de la représentation des autres, et de la même manière que le système parlementaire concentre le pouvoir dans la main ou dans les votes de députés, le système en France du syndicalisme, en tout cas encore plus du syndicalisme paritaire, voire du syndicalisme en tout cas institutionnalisé que De Gaulle a accéléré et tous ceux après lui depuis, renforce l'idée qu'il y a une couche de syndicalistes un peu professionnels et bureaucrates qui représentent de manière quasiment de droit les salariés. Et c'est tout le débat entre structures et syndicats autogestionnaires et syndicats représentatifs ou dits représentatifs avec des représentants, des délégués. Donc ça ne veut pas être la même pratique. Il y a actuellement sur Arte, là, il y a une série que je suis en train de regarder qui est très sympa. C'est un mélange entre kung-fu et syndicalisme. Ça s'appelle Machine. Je vous le conseille vraiment. Et ça montre un peu ça, d'ailleurs. Alors, c'est assez rigolo, un peu caricatural des fois, mais c'est quand même cette école un peu CGT. Alors, CGT, ancienne version, hein, avec des gens qui parlent à la place d'eux, et puis des salariés plus pour l'autogestion, lutte de classe. Et ça génère des réflexions intéressantes, en tout cas, dans la manière dont c'est amené. Mais en tout cas, cette idée-là, elle est aussi liée aux élections, au paritarisme, au fait qu'il y ait des organisations dites aujourd'hui représentatives. Hein, ça date de 1966. C'est le pouvoir qui a publié un arrêté qui définissait 5 confédérations représentatives. La CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CFTC et la CGC. Et donc ces confédérations dites représentatives, elles ont une forme de monopole dans certains secteurs de la représentation, avec le droit de se présenter pour elles et pas pour d'autres, avec des moyens associés, mais aussi, du coup, le droit du travail devient de plus en plus complexe. Et donc, il y a une notion de spécialiste et d'expert qui émerge, y compris dans les syndicats. Et il y a une forme de légitimation de la professionnalisation quasiment du syndicalisme par cet appel à l'expertise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les syndicats, ce sont aussi des structures de formation. Tous les syndicats ont leur propre structure de formation. Et c'est un droit. Mais qui c'est qui va se former ? Ça va être beaucoup les délégués du personnel, les conseillers du salarié, les militants les plus impliqués dans les conseils, enfin dans les CE, etc. Alors qu'en réalité, tous les salariés, et je répète ce que je viens de dire, tous les salariés ont le droit à être formés. C'est-à-dire que quand un syndicat dépose une formation syndicale, non seulement il n'a pas besoin d'être syndiqué pour en bénéficier, mais c'est gratuit. Alors pour les prises en charge, on va dire, des défraiements, est plutôt réservée aux syndiqués, mais je veux dire, la formation sur les aspects pédagogiques elle-même est gratuite, et c'est de droit, c'est-à-dire l'employeur, en théorie, n'a pas à s'y opposer. Par contre, il faut le prévenir, il y a des procédures, un minimum un mois auparavant, mais un syndicat, ça sert à former des gens sur le droit du travail, mais ça peut être des choses aussi basiques que lire une fiche de paie. Beaucoup de salariés ne savent pas lire leur fiche de paie.
Absolument, oui.
Ils ne savent pas ce que c'est qu'une cotisation sociale. Ils ne savent pas tout ça, en fait. Et les syndicats forment les salariés, les travailleurs, les travailleuses qui le souhaitent, à comprendre en fait quels sont leurs droits. Les devoirs, on les comprend bien, on passe longtemps.
On nous les dit bien d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Mais on a des droits aussi. Mais un droit ne peut. Enfin, les droits ne s'usent que quand ils sont pas utilisés en fait. Donc oui, il y a de la formation interne et il y a de la formation locale. À MIO, il y a les syndicats génèrent de la formation pour les adhérents localement. Il y a des formations départementales, il y a des formations régionales et il y a même des formations intersyndicales. Par exemple, sur MIO, la FSU, la CGT et Solidaire, depuis des années, font des formations sur les revendications féministes, par exemple. Ensemble, de la même manière, il y a des sessions de formation communes des trois syndicats sur l'antifascisme pour que les salariés dans les entreprises sachent aussi résister à la montée du fascisme et à tous les arguments aussi de l'extrême droite qui viennent mettre en opposition les travailleurs français et les salariés d'autres pays. Donc ça existe, tout à fait.
Alors là, tu nous as amené au niveau local. Alors, quels sont les syndicats actifs à MIO et dont tu te sens de nous parler et qu'est-ce qu'ils font concrètement, même si tu nous as donné déjà quelques éléments?
Alors, tout dépend de ce qu'on va entendre par actif. C'est un peu comme je disais. Il y a quand même, aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire, c'est encore plus vrai depuis la grève de novembre-décembre 1995. Vous savez, cette grande grève contre le plan Juppé, là, qui avait vraiment flingué la sécu, qui était passé des 5 meilleures annuités pour la retraite aux 25 meilleures. Donc les travailleurs ont quand même perdu un quart de leur pension quand même, suite à ça. Et il y a eu vraiment un schisme à cette époque-là. Il y a vraiment eu un schisme dans le paysage syndical, mais qui était le même que dans les 80, entre la social-démocratie, le PS, et le reste de la gauche, qui est devenu un social-libéralisme. Et ce qui s'est passé en 95, et qui était déjà le cas depuis les années 80, c'est que la CFDT s'est recentrée. Que j'entends par là, c'est que quand la CFDT a été créée à l'origine, c'était un syndicat révolutionnaire, autogestionnaire de transformation de la société. Hein, LIP, pour ceux qui disent quelque chose. Mais dans les années 80, avec le tournant de Nicole Notat, et avec aussi tout le tournant, on va dire, du social-libéralisme, Schröder, Blair, Jospin, bref, tous ces gens-là, eh ben, ils ont abandonné la notion de transformation sociale, et y compris la Confédération européenne des syndicats, la CFDT, tout un tas d'autres syndicats, ont dit, on laisse tomber tout ce qui va être transformation sociale, on laisse tomber tout ce qui est anticapitalisme, en fait, on va faire de l'accompagnement social du libéralisme. Le capitalisme a gagné, le libéralisme a gagné, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est négocier dans les entreprises des accords les mieux possibles, le meilleur possible pour les salariés, et puis finalement, face à la mondialisation, globalisation capitaliste, aux impérialismes, il vaut mieux défendre le camp, finalement, de l'Europe, du capitalisme européen, du capitalisme social de marché, comme ils disaient à l'époque. Donc il y a du grain à moudre et on va négocier par principe. Et en 95, la CFDT a soutenu le rapport Juppé. Et ça a été un trauma dans le monde ouvrier, puisque la CFDT est clairement et définitivement passée de l'autre côté. Pour te répondre aujourd'hui, il y a des syndicats qui font de l'accompagnement au quotidien et qui négocient chaque mesure en fait. Et puis tu as un autre groupe de syndicats, selon les endroits on va dire, et pour Millau, c'est souvent un front un peu solidaire, CGT, FSU, qui est plus un syndicalisme encore de transformation sociale. Et il y a un peu deux blocs. Le bloc de CFDT et de ses alliés, et le bloc de ces trois syndiqués-là, qui se recompose quelque part autour d'axes de résistance antilibérale.
Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a un moment, il y a une prise de pouvoir sur certains syndicats par les partis politiques, quelque part, et l'État même, le capitalisme. Mais je voudrais revenir au moment où tu as parlé de la première explosion où il y avait un syndicat unique et qu'il y a eu d'autres, un multisyndicalisme. Là, c'était sur des idéologies qu'ils se sont séparés. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les syndicats, ils sont plutôt rattachés, peut-être que je me trompe, mais à des corps de métier. Donc là, c'est encore une autre division des syndicats qu'il y a eu à un moment donné.
Alors, il y a deux choses. Les syndicats ne sont pas raccrochés à des corps de métier. Ça, c'était vraiment la loi... c'était vraiment les corporations, en fait, qui ont été détruites par la loi Chapelier. Les corporations qui permettaient aux ouvriers qualifiés, par exemple, d'être puissants, en fait, dans les tiers états, parce que c'était les plus conscients, les plus organisés et les plus capables d'agir. Et d'ailleurs, moi, je suis dans un syndicat qui, à la fois... défend les collègues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même besoin de se regrouper par salariés ou travailleurs concernés par une question, parce qu'elles sont spécifiques pour s'organiser. Par contre, la question de la transversalité des luttes unifiantes et de l'interpro, ce qu'on appelle de l'interpro, c'est fondamental. Il y a des syndicats qui, encore aujourd'hui, refusent la syndicalisation par métier, par exemple, et qui, par exemple, voudrait ou syndique tous les salariés de l'éducation nationale, que les personnes soient chargées du ménage ou enseignants ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est vraiment des choix stratégiques qui dépendent justement de notre conception, un, de l'efficacité, et deux, de nos aspirations sociales. Parce que c'est vrai que le risque du regroupement par métier, c'est de faire justement du syndicalisme de service. Où on peut, par exemple, bon, moi j'y étais, donc j'en parle tranquillement, il y a beaucoup de gens au SNES, hein, donc le syndicat de la FSU du secondaire, qui adhèrent au syndicat pour gérer leur carrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, ça fait des points, si on veut se regrouper avec le conjoint ou la conjointe, si on progressait, aller dans tel ou tel établissement plutôt dans un autre, bah, en fonction du nombre de points, on aura plus de possibilités. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'accompagnement par les syndicats, de ça en fait. Donc il y a le syndicalisme de service qui va favoriser aussi une approche métier et le syndicalisme de transformation sociale qui va être davantage sur le fait de dépasser les métiers pour trouver des revendications unifiantes et plus larges.
Quels sont les enjeux actuels pour les syndicats d'après toi et les actualités syndicales locales ou nationales actuelles aussi?
C'est une question qui est vraiment complexe parce que les actualités syndicales sont complètement liées aux actualités politiques en vrai. Quand on voit depuis 40 ans le détricotage systématique et en règle des conventions collectives et des droits collectifs au profit de droits plus individuels dépendant du rapport de force, de la capacité à négocier, des diplômes, etc., etc., on voit bien que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je disais que les syndicats ils faisaient des choses différentes. et il s'adresse à des populations différentes. Mais grosso modo, la question des retraites, elle reste aujourd'hui celle qui a fédéré, qui a recréé une forme d'unité syndicale, au moins contre la réforme de Macron, parce qu'il y a un désaccord profond au sein des syndicats sur qu'est-ce qu'il faudrait faire sur la question des retraites. Et la question des attaques systématiques contre l'assurance chômage. Il y a la question aussi de la conception du racisme, c'est-à-dire les syndicats se battent quand même, quels que soient les syndicats, contre la division des salariés et des travailleurs, qu'ils soient français ou étrangers. Donc il y a des points actuels qui sont extrêmement importants pour les syndicats. La question des salaires, dans une crise, une période d'inflation, la question des conditions de travail, la question de la pénibilité. En fait, les chantiers sont tellement énormes, en réalité, que les syndicats, ils s'intéressent à tout ce qui concerne les conditions de vie et de travail. La difficulté aujourd'hui, par contre, c'est que cette atomisation syndicale, d'une part, et cette multiplicité d'attaques tout azimut, plus une espèce de déconnexion entre le syndicalisme et les questions politiques, où, depuis quelques années, il y a une espèce de chacun chez soi. Or, la charte d'Amiens, elle était à la fois saluée comme assurant l'indépendance des syndicats vis-à-vis des politiques, oui, mais des partis politiques, pas de la chose politique. Et en même temps, elle était décriée aussi comme étant l'alpha et l'oméga de l'organisation. Donc en fait, il y a un truc qui n'est pas très clair, mais en tout cas, l'articulation qui devrait être cohérente entre des revendications sociales et des revendications politiques ne se fait plus. Et on a, lors des grèves, des partis politiques qui, pour beaucoup, se rangent derrière les syndicats, sans y mettre aucune revendication politique, et donc ça va être des luttes de défense, mais qui perdent parce que le rapport de force n'existe pas. Et lorsque les partis politiques veulent organiser des actions de transformation sociale, les syndicats refusent d'y participer dans beaucoup d'endroits en disant « on ne se mélange pas ». Or aujourd'hui, le mouvement ouvrier, il perd de ses divisions, de ses faiblesses. On a besoin de recréer des fronts communs, associations, partis politiques de transformation sociale, syndicats de transformation sociale pour lutter ensemble, avec les particularités. Mais ce morcellement, il fait que chacun fait son truc, en fait. Donc les syndicats, ils vont gérer des dossiers, ils vont faire de l'accompagnement des salariés qui sont licenciés, qui sont menacés, ils vont gérer des situations de harcèlement, ils vont négocier par entreprise, par branche, que sais-je, tout un tas de choses. Mais cette dissociation fait qu'à un moment donné, les échéances ne coïncident pas, les revendications ne coïncident pas, les rapports de force ne coïncident pas. Et ce qui a été très fort avec l'arrivée de Macron, c'est qu'il a encore renforcé le volet de professionnalisation du syndicalisme. C'est-à-dire que dès 2017, les premières choses qu'il a faites, ça a été de créer une espèce de statut du négociateur syndical. Et donc on a quasiment ce nouveau métier de négociateur syndical qui demande des compétences particulières, des formations particulières, et qui accélère encore le processus de bureaucratisation de certaines couches.
Donc au sein des syndicats?
Oui, de certains syndicats qui jouent le jeu de ce qu'ils appellent la négociation et du partenariat social. Sauf que le partenariat social aujourd'hui, on voit bien que ça n'existe pas.
Donc en fait, c'est un peu compliqué de dire les syndicats.
Mais l'histoire a vraiment... Alors c'est très très français, c'est vrai ailleurs, mais l'histoire du syndicalisme français a été marquée par les tensions internationales. En 2021, il y a le congrès de Tours qui sépare la social-démocratie, qui condamne la révolution bolchevique et la création du Parti communiste qui soutient donc par définition la troisième internationale qui est créée et la révolution bolchevique. Et ça génère... Alors, les communistes français sont majoritaires en politique, mais les syndicalistes réformistes sont majoritaires et donc les communistes sont exclus de la CGT. En 1921, et fonde la CGT unitaire, qui regroupe les communistes. Il faut attendre 1936 et le Front populaire pour qu'il y ait une réunification de la CGT et de la CGTU. Et après, ils sont de nouveau ensemble contre Vichy, où là, la CFTC également est dans la résistance. Tout ce brave monde, en 1943, plus les partis politiques de la résistance, créent finalement le programme qui fondera plus tard la sécurité sociale, la nationalisation, enfin le programme de la résistance. Mais ensuite, en 1947, c'est la guerre froide, c'est-à-dire c'est le plan Marshall, et là c'est la lutte anticommuniste, et du coup, qu'est-ce qui se passe? La CIA et les anticommunistes, communistes anti-staliniens, font scissionner la CGT et créent Force ouvrière, la CGT Force ouvrière. Et en fait c'est ça, on a une succession de scissions ensuite, qui vont être la résultante, quelque part, de positionnements politiques liés aux enjeux politiques. quasiment avec un refus d'affiliation, mais des proximités entre partis et syndicats.
En parlant d'enjeux politiques actuels, donc on a souvent l'image des syndicats de manière générale, donc l'image d'une organisation hiérarchisée, un peu paternaliste, donc pas très éduquée pour le coup. Est-ce qu'aujourd'hui le syndicalisme interroge en interne des enjeux de domination ou de pression systémique, même entre syndicalistes par exemple ?
Alors ça c'est vraiment une question qui est très intéressante. Le syndicat, enfin beaucoup de syndicats sont bureaucratisés, d'autres se sont créés justement en réaction à ça sur des lignes autogestionnaires, mais quels que soient les syndicats, ils sont composés d'êtres humains. C'est-à-dire qu'ils eux-mêmes ont intégré des systèmes d'aliénation et de reproduction, et donc si ces systèmes d'aliénation et de reproduction ne sont pas interrogés, ils se reproduisent. Si en plus on en a des cadres, des syndicats bureaucratisés, qui ont l'habitude de fonctionner avec délégation du pouvoir de décision à des chefs, quelque part. Alors, on peut les appeler délégués du personnel, représentants ou ce que l'on veut, mais en tout cas, sans tradition autogestionnaire, bah finalement, il y a peu de cadres pour interroger ça. Ce qui va être important, c'est des mouvements comme MeToo. C'est-à-dire que dans la société civile, des mouvements s'auto-organisent pour mettre en avant des revendications spécifiques et vont venir questionner les systèmes de domination et de reproduction, et vont venir percuter en interne les pratiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les syndicats, alors qu'il y a toujours eu des commissions féministes dans les syndicats, donc parce qu'aujourd'hui, la question du harcèlement sexiste et sexuel, la question des violences, des dominations, elle est réinterrogée plutôt sous le poids, on va dire, de revendications qui sont à la fois en interne, avec des militants et des militantes qui se saisissent en fait de ces combats-là, et percuté par l'externe sur les pratiques. Après, il est plus facile, évidemment, dans un syndicat comme une fédération comme Solidaire, qui a été créée en opposition, on va dire, aux pratiques bureaucratiques, et qui a été née de l'exclusion de militants par milliers de la CFDT, tendance nota, et donc qui a tout de suite été sensible aux questions de l'intermondialisme, aux questions, on va dire, d'auto-organisation, aux questions du respect des minorités, quelles qu'elles soient, et la question, on va dire, de l'émancipation individuelle et collective, de créer des structurations de politisation au sens noble du terme. Hein. C'est-à-dire qu'au sein de syndicats comme Solidaire, oui, il y a un travail de formation de tous les militants, il y a un travail d'éducation populaire. On ne peut pas obliger chaque militant, chaque militante d'aller à un stage de formation ou de lire la presse ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, chaque militante et chaque militant a accès aux données. Il y a d'autres syndicats plus traditionnels où bah, ça a beaucoup dépend des équipes locales. Et je voudrais quand même insister sur le fait que appartenir à un syndicat, ce n'est pas comme appartenir à un parti. On va aussi adhérer à un syndicat par rapport éventuellement à ses orientations idéologiques, par rapport à ses pratiques, mais aussi par rapport à ses opportunités. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis passé aussi bien par la CGT que par Solidaire en passant par d'autres syndicats. Ou la FSU, etc. Mais moi, j'ai adhéré là où il y avait des équipes qui étaient combatives sur le terrain. J'ai adhéré là où il y avait des syndicats qui existaient, tout simplement. Parce qu'il y a plein d'endroits où ça n'existe pas, les syndicats. Et donc, au-delà des différenciations idéologiques, l'idée, c'est vraiment de quel outil je me donne, où est-ce que moi, je peux contribuer pour m'informer, pour gagner en connaissance, pour contribuer à des actions, pour les relayer, pour faire savoir des choses par rapport à ce qui existe. Donc en fait, c'est toujours plus compliqué que ça. Mais les pratiques de pouvoir, clairement, c'est des choses qui génèrent, y compris des reproductions de domination justifiées par une conception du pouvoir basée sur une vision pyramidale. Donc oui, ça existe.
Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui voudraient s'engager, par exemple, qui n'ont jamais été dans des syndicats, mais voilà, qui auraient aujourd'hui envie, un désir de lutter, de militer et de se rapprocher d'un syndicat ?
Déjà, la première chose, c'est pas confondre le petit topo historique que je viens de faire avec les préoccupations du quotidien. Le petit topo que je viens de faire, c'est pas de ça dont on discute dans les syndicats. Enfin, on peut en discuter sur des temps de formation, justement, pour donner de la compréhension sur les positions. Mais au quotidien, alors, pour ce que j'en connais, hein, dans les syndicats, on va s'interroger sur les mobilisations, les réformes du gouvernement, qu'est-ce qui est en jeu, comment ça va venir impacter nos droits, comment ça va venir impacter nos conditions de travail, avec quoi on peut être d'accord parce que c'est du progrès, avec quoi on n'est clairement pas d'accord parce que ça va être des reculs très, très forts en fait. Ce qu'on va discuter dans les syndicats, c'est aussi avec les collègues, comment on arrive au niveau de notre structure, notre entreprise, notre association, que sais-je, à gagner en qualité de vie, en clarté, en communication, comment on évite aussi avec les collègues finalement d'être en conflit sur des choses qui ne nous appartiennent pas. Parce qu'avec la libéralisation, avec le développement de la rentabilité, avec l'accélération des rythmes, des cadences de la productivité, avec aussi le fait que beaucoup souvent on est en sous-effectif, en fait ça va générer plein de tensions entre les salariés. Il va y avoir des statuts différents, des intérimaires, des gens en CDD, des gens en CDI, des gens en temps partiel, des gens en temps complet. Enfin, il y a plein d'occasions d'être en conflit, d'avoir des jalousies, d'avoir des peurs, d'être mis en concurrence, d'être évalué, d'être comparé. Enfin, donc dans le syndicat, on va aussi chercher à sortir de ces logiques-là et à voir plutôt comment on peut s'organiser pour faire alliance. Comment on évite de tomber dans des pièges de division qui sont finalement le quotidien et qui font que beaucoup de salariés ne se battent plus, en fait. Parce qu'en fait, ils se disent, à quoi bon ? De toute façon, même entre nous, on n'est pas capable de se mettre d'accord. Donc, on va faire de la formation, on va s'apprendre, on va essayer de se mettre d'accord sur des choses. Et on va aussi apprendre à se mettre d'accord, ce qui est quand même pas mal. Et puis, on va aussi discuter. Y a des choses qui existent tous les ans. Par exemple, le 8 mars, la journée internationale pour le droit des femmes. Le 25 novembre, la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 1er mai, la journée internationale pour les travailleurs, et non pas la journée du travail qui est une invention de Pétain. Toutes ces choses-là, ça peut être aussi l'occasion d'apprendre qu'est-ce que c'est, d'où ça vient cette histoire, pourquoi il y a eu ça, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que ces combats-là. Et là, par exemple, je vais prendre l'exemple du syndicat où je suis, à Solidaire, on sera aussi à la Gay Pride, en tant que syndicat, parce qu'on pense que les questions de représentation, de sexualité, de genre, enfin toutes les questions qui vont constituer des individus en tant qu'individus pleinement et entièrement eux-mêmes, c'est aussi ça qui contribue à l'émancipation. Et on va chercher à sortir des oppositions entre des visions normatives et puis comment on devrait être un salarié, comment on devrait être un travailleur. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'aspire à ce que chacun, chacune puisse être comme c'est bon pour lui ou pour elle, quoi.
Donc là, ce que j'entends, c'est qu'un syndicat, ça peut être à la fois un espace de militantisme et de défense du droit du travail, mais aussi un espace de parole et de réflexion sur le monde du travail, par exemple.
Il est vraiment, vraiment, vraiment fondamental pour beaucoup de salariés de sortir de l'isolement. Aujourd'hui, il y a des millions de salariés qui culpabilisent de ne pas être assez rentables, de ne pas aller assez vite, qui sont sous Prozac, sous médicaments, qui vont pas bien, qui ne voient pas le sens à leur travail, qui ont l'impression d'être dans un système complètement aberrant, qui ont l'impression que ce qu'ils font n'a aucun sens, voire détruit la planète. Enfin, et à un moment donné, effectivement, être dans un syndicat, c'est aussi l'occasion de discuter avec d'autres, de qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait. Pourquoi on fait ça? Est-ce que la manière dont on le fait, c'est la manière la plus cohérente, la plus logique? Et des fois, avoir un espace juste d'échange, de discussion collective, c'est aussi se dire, en fait, c'est pas moi qui ai un problème, en fait. C'est peut-être la manière dont l'outil de travail est pensé, la manière dont l'organisation de travail est pensée, qui est complètement débile, en fait. Peut-être qu'en fait, si on faisait autrement, ça irait mieux. Et c'est en ça aussi que le syndicalisme, il peut être tout à fait basé sur des choses immédiates. Et c'est tout à fait OK d'aller voir son N+1, ou que le syndicat, il porte au conseil son supérieur hiérarchique, chef d'équipe, que sais-je, ou qu'au sein du conseil d'entreprise, comité d'entreprise, ou n'importe quoi, on dise, attendez, nous là, en tant que salariés, en tant que travailleurs, on est sur le terrain, et on voit bien que ce qui se passe, ça va pas, en fait. Un, ça nous fait du mal, deux, c'est pas efficace, et en fait, on voudrait en discuter, en fait. Mais si je suis tout seul face au patron, ou tout seul face aux actionnaires, en fait, je n'ai aucun poids. Et je me sens même pas légitime pour oser m'exprimer. Parce qu'en plus, j'ai la peur d'une répression derrière.
Oui, donc ça réhumanise un peu le monde du travail, quoi.
Ça peut. Je ne voudrais pas qu'il y ait de baguette magique. Non. Mais en tout cas, dès qu'on crée du collectif, ça génère du possible. Et ça, c'est important pour moi. Et par rapport aussi à tes questions, alors c'est pas pareil partout, c'est pas pareil si on est salarié à l'hôpital, c'est pas pareil si on est salarié dans la fonction publique, c'est pas pareil si on est dans la production. Moi, je suis assez étonné, je suis dans le secteur associatif, le secteur de l'éducation populaire, où, à mon sens, n'importe quel salarié devrait être syndiqué, Parce que simplement, encore une fois, c'est un temps de formation, d'appartenance, de se reconnaître ayant des droits, de pouvoir échanger sur qu'est-ce qu'on vit dans nos structures. Enfin, c'est aussi un lien d'échange inter-structure, en fait, mais du point de vue des salariés. Mais en réalité, il y a extrêmement peu de salariés du secteur associatif syndiqués, par exemple.
Mais peut-être que parce que dans l'imaginaire des gens, un syndicat, il faut que ce soit une grosse structure, qu'il y ait tant de salariés, pour qu'il y ait un représentant syndical, quoi. Peut-être qu'on se dit que...
Bien sûr, mais c'est une des choses qui ont été, qui viennent aussi de la notion de co-gestion. C'est-à-dire que et l'État et les syndicats dits représentatifs, dont on a parlé tout à l'heure, depuis les années 60, sont bien d'accord pour expliquer qu'il faut qu'il y ait de la représentation et donc de la délégation et que finalement l'organisation hiérarchique elle est légitime, elle est plus efficace. Mais ça veut dire aussi que de fait, ça génère une mise en retrait des salariés de leur propre vie en tant que salariés et ils la délèguent. Et donc l'habitude que l'on pouvait avoir pendant des dizaines d'années, on va dire, d'aller aux réunions, discuter nous-mêmes, de faire des propositions, de prendre des responsabilités, bah ça s'est dilué. Ça s'est dilué. Et ça s'est dilué aussi par la précarité, ça s'est dilué aussi par le turnover, ça s'est dilué aussi par l'intérim, ça s'est dilué aussi par plein d'autres choses. Mais oui, être salarié aujourd'hui, bah souvent, c'est se battre au quotidien un peu. Avec des chiffres, avec une temporalité, avec des urgences, avec des deadlines, avec... 40 missions, du surménage, et beaucoup de salariés, ils disent, mais en fait, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, pour ceux hein, qui se posent la question. Et puis, bah, d'autres, c'est juste de dire, je sais pas de quoi tu parles, en fait. Et puis, effectivement, on est trop petit, ça sert à rien. Mais c'est pour ça que il y a la question de créer des sections d'entreprise. Mais créer une section d'entreprise, si on est deux, c'est vrai que ça sert pas forcément à grand-chose. Par contre, rencontrer des salariés d'autres structures, c'est très riche, en fait. C'est une super ouverture. Et ça permet aussi de voir que peut-être dans d'autres structures, il y a des choses qui se font qu'on n'aurait pas pensé. Et d'arriver avec des demandes ensuite, ou des propositions. Le syndicalisme, y compris de transformation sociale et révolutionnaire, n'est pas un syndicalisme uniquement basé sur la grève générale. La grève générale est un moyen de transformation sociale, certes, mais qui ne se suit pas lui-même par ailleurs. Mais en tout cas, au quotidien, encore une fois, le syndicalisme, c'est générer de la conscience collective et de l'action collective, et de la solidarité, de l'entraide.
Toi, pourquoi tu es syndicaliste ?
Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Je crois spontanément que, de la même manière que je suis militant politique, de la même manière que je suis engagé dans des associations, je ne saurais pas faire autrement. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde tel qu'il fonctionne ne me satisfait pas. Je n'ai pas pour option personnelle l'idée de « je sauve ma gueule et après moi le déluge ». Donc, je n'ai pas cette vision libérale quelque part... de l'idée qu'en maximisant l'intérêt privé individuel, on génère une société la plus désirable possible collectivement, j'y crois pas. Et à partir de là, j'ai besoin que le sens que je mets à ma vie, à mon travail, à mes engagements, à mon action sur le terrain, il soit en lien avec d'autres. J'ai besoin que de savoir ce qui m'appartient, ce sur quoi je peux agir. Il y a des échelles où je peux agir et j'ai besoin de me fédérer avec d'autres salariés, d'autres travailleurs, d'autres avec ou sans emploi par ailleurs, pour me dire que c'est ensemble qu'on peut changer des choses à d'autres échelles. J'ai besoin d'appartenir à une association de quartier. J'ai besoin d'appartenir à une internationale présente dans tous les pays. J'ai besoin de me dire qu'à un moment donné, je suis en lien avec des dizaines de millions d'autres camarades parce qu'on a les mêmes intérêts même si on ne se connaît pas en fait. Et pourquoi je suis dans un syndicat ? Pourquoi je suis dans des associations d'éducation populaire ? Parce que j'ai aussi envie d'apprendre de nos vécus. Qu'est-ce qu'on vit ? Je n'ai pas envie de n'apprendre que par Le Monde, Libération, CNews, les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, j'ai envie de mettre de la chair dans les vécus. Parce que sinon, on n'est plus que dans des statistiques. On n'est plus que dans de la compréhension froide et intellectuelle de réalité qu'on peut éventuellement mathématiser. Mais moi, quand je discute avec un ou une camarade privé d'emploi, ce que ça veut dire être privé d'emploi, dans le rapport à la dignité, à l'image de soi-même, dans le regard des autres, dans tous les discours parfois d'auto-justification, ouais, mais c'est du système D. Ok. Moi, je suis pour la décroissance et je suis pour le système D. La question, c'est est-ce que c'est du choix volontaire ou est-ce que c'est juste en réalité une forme de survie parce que j'ai pas vraiment d'autre choix. Enfin, j'ai envie de dire, pour sortir aussi des yaka faucons, C'est d'être en lien avec des milliers de situations réelles, en fait.
Oui, c'est ça, réelles et concrètes. Ouais.
Et oui, et en même temps, j'ai besoin d'être dans une structure où il y a quand même une forme d'expertise, d'éducation populaire, parce que pour comprendre des situations, il n'y a pas que de l'émotionnel, il n'y a pas que des expériences individuelles, il y a aussi une capacité à comprendre de manière systémique les enjeux, les logiques, les actions. Et pour ça, j'ai besoin de camarades qui sont spécialistes du droit, d'autres de l'économie, d'autres du droit social. Et puis quand je suis dans une structure et que j'essaie d'accompagner des salariés, j'ai besoin d'avoir, de mon syndicat, d'avoir une commission juridique vers laquelle je puisse me tourner. J'ai besoin de savoir que dans mon syndicat, s'il y a quelqu'un qui me pose une question que je ne sais pas y répondre, j'ai des ressources. J'ai besoin de savoir tout ça, en fait. Parce que sinon, je me sens impuissant, en réalité. Je me sens impuissant.
C'est vrai qu'on a un peu balayé le spectre des actions et des outils du syndicalisme, de la grève jusqu'aux sortes de groupes de parole de travailleurs. Pour conclure et synthétiser un peu cet échange, d'après toi, Nicolas, le syndicalisme pense-t-il l'éducation populaire et l'éducation populaire pense-t-elle le syndicalisme ?
Je pense que l'éducation populaire pense davantage le syndicalisme, au moins en termes de référence, que le contraire. Spontanément, je pense que beaucoup de syndicalistes vont affirmer faire de l'éducation populaire. Et de fait, ils se placent dans cette tradition de la charte d'Amiens, de la charte de Grenoble pour les étudiants, de tout un tas de références. Et comme ils font effectivement de l'accompagnement et du conseil au quotidien, y compris avec de la formation, ils ont des pratiques. Après, de la même manière qu'il y a des structures d'éducation populaire qui pour moi n'en font pas, il y a du syndicalisme qui ne fait pas de syndicalisme d'éducation populaire. Et pour moi, le rapport, c'est vraiment faire à la place de et pour, faire avec. Dans tous les cas, ça va être ça le critère. Est-ce que je déresponsabilise les personnes de leur propre vie ? Parce que je suis l'expert et je sais, je suis un sachant. Et donc, je vais faire des choses descendantes. Ou bien, est-ce que je vais être au service, je vais mettre mes compétences au service des personnes et les inclure dans un processus ? Ça ne veut pas dire que je vais utiliser mes compétences, bien sûr. Mais la démarche, pour moi, n'est pas la même. La philosophie n'est pas la même. Et du coup, les rapports ne sont pas les mêmes.
Donc, le syndicalisme gagnerait à penser plus éducation populaire ?
En tout cas, dans ma conception. C'est-à-dire que, encore une fois, depuis 40 ans, il y a ce clivage entre un syndicalisme de transformation sociale qui s'assume et l'abandon de la notion de transformation sociale par tout un pan du syndicalisme, y compris majoritaire. Et donc, de quelle éducation populaire on parle ? De quel accompagnement on parle ? De quelle émancipation on parle ? Et quelles sont les stratégies et les voies de l'émancipation ? Mais c'est les mêmes débats qu'on a dans la structure d'éducation populaire. Est-ce qu'on fait du dossier, du projet, avec des appels à projets subventionnés par l'État, valables 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des critères, machin ? Est-ce qu'on part des besoins des gens ? Est-ce qu'on a du salariat, pas de salariat ? Est-ce qu'on est en capacité de garder des intentions de transformation sociale, y compris si elles viennent se heurter finalement aux visions de l'État et de toutes les institutions ? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une forme de répression étatique sur le mouvement de l'éducation populaire. Tout ça, ce sont des vrais enjeux. Moi, j'ai mes convictions. Mais je veux dire, c'est à chacune des personnes qui souhaitent s'investir, connaître ses droits, défendre des droits, de mettre le curseur sur ses propres lignes rouges.
Tu veux rajouter quelque chose ?
Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a à Millau des maisons des syndicats, et qu'il y a des permanences, et que peut-être il serait intéressant pour les salariés, avec ou sans emploi, pour les retraités, les syndicats de retraités, pour les jeunes, pour tout le monde, de venir peut-être se renseigner avec des choses peut-être plus adaptées, parce que c'est un cours très généraliste, et bien sûr, il faudrait faire du sur-mesure.
Merci.
Merci.
C'était donc Copé Radio sur le thème éducation populaire et syndicalisme. Copé Radio, une émission de Radio Larzac pour explorer les questions d'éducation populaire. Wonder Twang.